On fait une série, on s'est lancé dans une série « Retrouver le rythme ». Et l'idée, c'est vraiment de reprendre le beat de la vie d'Église, le rythme de la vie d'Église, même nos rythmes personnels dans la foi. Puis on s'est dit que c'était une belle opportunité de présenter l'Église de l'espoir, ce qui se passe ici à l'espoir, quelle est notre vision. Puis j'en profite par le fait même pour vous inviter aussi à supporter, appuyer l'implantation de notre Église Doxa à Brossard. L'Église Doxa est en recherche intensive d'un local. En principe, on va pouvoir confirmer ça demain. Donc, ils étaient dans une église où ils se réunissaient. On a lancé les dimanches après-midi, mais avec l'allocation d'un local, ça va pouvoir être maintenant les dimanches matins. Alors, priez, s'il vous plaît, pour la confirmation d'un local. C'est vraiment urgent cette semaine. Et planifiez d'aller visiter Doxa pour les encourager. Considérez si Dieu vous appelle à appuyer cette implantation. Ils sont maintenant presque une quarantaine de personnes dans l'implantation. Donc, c'est déjà une belle petite église. On est en train de revitaliser, avec l'aide de Dieu, l'église de Sorel aussi. Donc, on vous demande toujours de prier pour l'église de Sorel, d'aller visiter Sorel aussi pour les encourager, prier pour eux. Peut-être que Dieu vous appelle à déménager à Sorel, on ne sait pas. Mais priez pour ces projets-là, s'il vous plaît. Puis ici, à l'espoir, avec cette série-là, Retrouver le rythme, bien, on veut présenter, on veut se rappeler, puis on veut présenter qui est l'espoir. On a parlé de l'importance de la louange. On a parlé de l'importance de la parole de Dieu. Quelle place occupe la parole de Dieu à l'espoir? Maintenant, c'est intéressant. Dieu n'a jamais dit dans la Bible, « Ma maison sera une maison d'études bibliques. » Avez-vous déjà remarqué ça? Jamais dans les Écritures, on dit ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » C'est vraiment intéressant. On est une église qui aime étudier les Écritures, puis pourtant la vision de Dieu, c'est que sa maison, l'église de Christ, doit être une maison de prière. Ce matin, on va parler de la prière ensemble. On va parler de nos rythmes dans la prière, de vos rythmes, mais c'est aussi en église. Et notre rapport à la prière. Je pense que la prière, c'est une des choses les plus belles, les plus simples qu'un chrétien peut faire. Puis c'est une des choses les plus difficiles pour un chrétien. Souvent, après quelques années de vie chrétienne, les gens cessent de prier. Ils ont l'impression de vivre la prière comme des examens qu'ils font passer à Dieu ou qu'ils se font passer à eux-mêmes. C'est tellement pas ça, la vision de Dieu pour la prière. On va aller voir ça ensemble ce matin et on va plonger dans un passage dans Ésaïe 56, un passage que j'aime beaucoup. Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ. Ésaïe, c'est un texte prophétique, donc il annonce un jour où les choses iraient autrement entre Dieu et les hommes. C'est un passage qui est merveilleux parce que dans ce passage-là, Dieu est en train de dire, c'est pas seulement les Juifs qui vont avoir leur place dans la maison de Dieu, mais les gens de toutes les nations de la terre. Même, soyez attentifs, il est question d'eunuque là-dedans, je vous reviens là-dessus tantôt, il est question d'eunuque, mais c'est vraiment un passage où Dieu nous invite. Dieu nous appelle, puis il donne des promesses à ceux qui veulent venir vers lui, à ceux qui veulent venir dans la prière, à ceux qui veulent venir le rencontrer. Dieu ouvre grand les bras, puis désire qu'on vienne se réjouir dans sa maison de prière. Alors, on va aller dans un mot de prière. Esther va venir nous lire le passage, puis on va plonger dans ce passage-là ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence ce matin pour recevoir ta parole. Et Seigneur, on veut recevoir ta parole ce matin pour trouver la foi, la compréhension, la vision, le désir d'aller vers toi. Non seulement pour recevoir, mais pour s'exprimer, pour te parler, pour te dire combien nous t'aimons, pour te dire combien tu es merveilleux, Seigneur, pour t'apporter nos besoins, nos requêtes, nos supplications, tout ce qui nous tracasse, Seigneur, tous nos soucis, venir les déposer à tes pieds. Et Seigneur, je sais que c'est un domaine où j'ai à grandir, mais où toute l'Église a à grandir, Seigneur. C'est un domaine, la prière, c'est un domaine qui se vit avec une extraordinaire simplicité. Un enfant prie spontanément, quelqu'un qui est en détresse, même qui ne te connaît pas, va prier spontanément. Et pourtant, Seigneur, en même temps, c'est un défi parfois extraordinaire, parce qu'on dirait que notre foi est toujours remise en question lorsqu'on vient avec des requêtes qui pèsent sur nos cœurs depuis des années. Puis on a l'impression de te faire passer des tests ou de passer un test nous-mêmes. Viens, Seigneur, nous donner une autre vision de la prière, ta vision à toi de la prière. C'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen.
Bonjour. Le passage biblique se trouve dans le prophète Ésaïe, au chapitre 56, les versets 1 à 8, dans la nouvelle édition de Genève. Ésaïe 56, 1 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple », et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés.
Merci, Esther. La prière est l'un des gestes les plus intimes et les plus spirituels que l'être humain puisse poser. La prière chrétienne est formée par notre connaissance de notre Père céleste, grâce au grand accès que Jésus nous a donné auprès de lui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord pour dire que la prière, c'est un des gestes les plus spontanés qu'on peut faire lorsqu'on pense à Dieu ou lorsqu'on traverse un moment de détresse. On enseigne à nos enfants à prier, puis ils nous entendent prier, puis là, ils nous imitent. Hein? On les fait prier au repas, puis là, ils nous imitent. Mais ils partent assez vite. Hein? S'il y en a un qui est un peu... pas trop gênés, là, ils partent, là, puis là, oh, on trouve ça tellement merveilleux comment ils prient. Ils ont plein de choses à dire à Dieu. C'est très spontané, la prière. C'est très, très... Même si tu négliges la prière dans ta vie, il y a des événements, des choses qui vont se passer dans ta vie où tu vas prier spontanément. Ça va peut-être être un cri de détresse, ça va peut-être être un merci juste comme, « Wow, Seigneur, tu es incroyable! » Puis c'est spontané. Mais en même temps, j'ai l'impression, c'est mon expérience à moi, que la prière aussi, c'est peut-être l'exercice le plus difficile qu'on a à faire. C'est peut-être le plus difficile dans le temps, dans la durée. J'ai l'impression que souvent, comme je disais tout à l'heure, la prière devient une espèce d'examen qu'on fait passer à Dieu ou qu'on se fait passer à nous-mêmes. Puis là, tu vas dans la prière, puis tu pries pour quelque chose que tu as à cœur, puis tu pries, puis tu pries, puis tu pries. Puis Dieu répond pas, ou tarde, ou tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Puis pourtant, ta prière semble tellement légitime, tellement belle, tellement pure. Puis là, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui manque de foi? Est-ce que c'est Dieu qui veut pas répondre? On vit toujours ça comme une espèce d'examen. Alors que c'est pas ça, la prière. La prière, c'est pas ça. La prière, ça demeure une communion très simple avec Dieu. La vision de Dieu pour son Église, voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. La vision de Dieu pour son Église est une maison de prière composée de toutes les nations. Priez ensemble et priez sans cesse. Priez simplement. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Regardez les versets 5 à 7. Voici le cœur, la vision de Dieu pour son Église. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs, une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas, et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. La vision de Dieu pour sa maison, c'est une maison de prière. Comme je le disais tantôt, c'est intéressant, on est dans une église qui aime étudier la Bible. Nulle part dans la Bible, tu vois, ma maison sera une maison d'études bibliques. Tu vois pas ça? Ça va être une maison de cours où on va étudier Dieu. Ça va être une maison de bonnes œuvres non plus. Ça va être une maison de prière. Ça va être une maison de communion avec Dieu. Puis j'aime cette image-là. Il dit, je les réjouirai dans ma maison de prière. Puis la source de leur joie dans ce passage-là, il parle à l'étranger, il parle à l'eunuque. Puis il dit, vous allez faire partie de ma maison. À ceux qui viennent à moi de toutes les nations de la terre, je vais les accueillir, je vais leur donner un nom nouveau. Je vais leur donner un nom éternel. La vision de Dieu pour son peuple, pour sa maison, ça a toujours été une maison de prière. Quand Jésus vient, donc ça c'est 700 ans avant Jésus-Christ, quand Jésus vient 700 ans plus tard, entre dans le temple, on est dans le second temple, il y a eu des petits aménagements qui ont été faits avec le second temple, il y a maintenant un secteur pour les non-juifs, c'est le secteur des gentils. Même si des non-juifs se convertissaient au judaïsme, ils n'avaient pas tout à fait accès à la section pour les juifs. Ils faisaient partie du peuple de Dieu, mais il y avait leur petit secteur à eux. Puis là, à l'époque de Jésus, en plus, c'était rendu un endroit où on vendait un paquet de produits pour le temple. Il y avait toutes sortes de choses qui étaient vendues pour le service du temple. Il y avait du monde qui faisait de l'argent là-dedans. Jésus arrive là, puis il est fâché. Il explose littéralement. Puis il dit, « Ma maison... » Il a été dit, « Ma maison sera une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Donc, cette vision que Dieu a dans Ésaïe 700 ans avant Jésus-Christ n'est pas réalisée quand Jésus va dans le temple. Puis, en 70 après Jésus-Christ, le temple est détruit et il n'a toujours pas été reconstruit. Donc, comment ça s'accomplit, ça? Est-ce que ça se réalise, cette parole-là? Est-ce qu'un jour, la maison de Dieu va devenir une maison de prière? Je veux dire, Ésaïe l'a annoncé 700 ans avant Jésus. Jésus vient, il rentre là-dedans, il dit, « Boy, c'est tout aussi pire qu'avant, ça ne marche pas pantoute. Vous fait de la discrimination, il y a la section pour les non-juifs, la section pour les juifs, ici il y a de la vente. Ça ne fonctionne pas pantoute, votre affaire. Ce n'est pas encore une maison de prière. » Puis en 70 après Jésus-Christ, le temple est détruit. Quand est-ce que la maison de Dieu devient une maison de prière? C'est en Jésus-Christ qu'elle devient une maison de prière. C'est en Jésus lui-même qu'elle devient une maison de prière. Voyez-vous, Jésus-Christ se présente dans le Nouveau Testament comme notre sabbat, même comme notre temple. Jésus va dire du temple, « Détruisez-le et en trois jours je le rebâtirai ». Plus tard, les disciples vont comprendre qu'il parlait de son corps qui allait être crucifié, il allait mourir, ressuscité le troisième jour. Jésus est ce lieu et cet endroit et cette personne où nous allons rencontrer Dieu. Ces paroles que le prophète Ésaïe prononce 700 ans avant Jésus-Christ s'accomplissent en Jésus-Christ. Le moment où des gens de toutes les nations de la terre vont pouvoir se réunir pour venir adorer Dieu, c'est lorsque Jésus-Christ vient, meurt sur la croix, ressuscite d'entre les morts. Il est notre temple. C'était quoi le sabbat pour les Juifs? Le sabbat pour les Juifs, c'était un jour consacré à Dieu. C'est un jour qui était consacré pour aller rencontrer Dieu, pour se reposer, mais se reposer en Dieu. C'était un temps qui était pour aller rencontrer le Seigneur, prendre du temps avec la famille, vraiment se reposer. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux dans le Nouveau Testament nous aide à comprendre que Jésus est notre repos. Celui qui place sa foi en Jésus-Christ entre dans ce repos du sabbat pour toujours. Et lorsque tu places ta foi en Jésus-Christ, c'est là que tu vas rencontrer Dieu. Donc, je lis cette prophétie dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe. Dieu a une vision pour que des gens de toutes les nations de la terre viennent le rencontrer, viennent l'adorer, viennent se réjouir d'une communion pure, simple, vraie avec Dieu. Quand Jésus vient 700 ans plus tard, ce n'est pas accompli. Tu arrives au temple, il y a de la discrimination, il y a de la vente dans le temple. Jésus, il dit, mais c'est une catastrophe, c'est toujours pas une maison de prière. Quand est-ce que ça va se produire? Avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, on va trouver le pardon. Les sacrifices accomplis au temple sont accomplis en lui. Christ est notre temple. Christ est notre sabbat. Et c'est là que je vais rencontrer Dieu. C'est lorsque je m'approche de Jésus-Christ. Simplement. La vision de Dieu, je vous la relis, versets 4 à 6. « Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférables à des fils et à des filles. Ils étaient interdits à venir dans la présence de Dieu et maintenant ils sont accueillis dans la présence de Dieu. » Et Dieu va leur donner un nom qui est préférable à celui des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Il y a des échos au livre de l'Apocalypse là-dedans. Où Dieu va nous donner un nom éternel. À celui qui est fidèle, à celui qui persiste, Dieu va lui donner un nom éternel. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Le début d'Ésaïe 56 commence avec le verset suivant. Ésaïe 56, 1. « Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir. » Et ma justice à se manifester. Cette délivrance que Dieu avait annoncée au peuple d'Israël, où les gens de toutes les nations de la terre, même les eunuques, seraient bienvenus dans la présence de Dieu, ce salut-là s'est accompli en Jésus-Christ. Et donc, la maison qui est appelée à être une maison de prière, c'est l'Église de Christ. C'est l'Église de Christ parce que je porte un nom nouveau, je suis un disciple de Jésus-Christ, et j'ai placé ma foi en lui. Une maison de prière pour toutes les nations. C'est intéressant l'idée de l'image de l'eunuque. Un eunuque, c'est un homme qui a été castré pour être consacré à un service quelconque. Soit qu'il était eunuque naturellement, ou soit que c'était par l'intervention humaine. Maintenant, dans l'Ancien Testament, il y avait toute une image de ce qui est pur. Est impur, de ce qui peut entrer dans la présence de Dieu ou non. Et donc, si tu étais un eunuque, c'est comme si tu n'étais pas entier, littéralement. Tu n'avais pas le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Si tu n'avais pas placé ta foi en Jésus-Christ, tu n'avais pas le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Si tu n'étais pas d'origine juive et que tu ne t'étais pas converti, tu n'avais pas le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Et si tu étais un eunuque, tu plaçais ta foi en Dieu, tu n'aurais jamais le même accès à Dieu que tous les autres. Tu serais toujours à l'écart, toujours à part. Puis là, on arrive dans cette prophétie-là où Dieu semble dire qu'il va aller comme contre les lois qu'il avait établies pour le temple. Dieu avait donné des règles. Il avait dit non, l'eunuque ne peut pas rentrer. Si un eunuque naissait dans la tribu de Lévi, là où étaient choisis les sacrificateurs, jamais il pourrait être sacrificateur. Les règles étaient très, très claires. Puis on arrive dans le texte d'Ésaïe, puis Dieu dit, non, il y a un jour qui vient où tout le monde va être bienvenu dans ma maison. Tout le monde va être accueilli dans ma maison. Et ça, c'est réalisé à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. En Jésus-Christ, tout le monde peut obtenir le pardon de ses péchés. En Jésus-Christ, il n'y a plus de juifs et de non-juifs, d'eunuques ou non. Tout le monde est bienvenu dans la présence de Dieu. Juste le chapitre après, dans Ésaïe 57, on voit le cœur de Dieu. Puis pourquoi est-ce que je m'en vais là? C'est que quand j'ai dit tout à l'heure que la prière est comme une espèce de test qu'on fait passer à Dieu ou qu'on se fait passer à nous-mêmes, c'est juste que j'observe qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, avec les années qui passent, vont avoir tendance à prier moins parce que ils ont des doutes parce qu'ils ont vécu des déceptions dans la prière, parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur pour venir dans la prière. Puis ce moment-là d'intimité avec Dieu, ça devient toujours comme cette espèce de test-là. Et je pense que c'est dû au fait qu'on ne réalise pas qui on est en Jésus-Christ. On ne réalise pas à quel point le Père veut qu'on vienne en toute simplicité. J'avais une grosse conversation théologique avec un ami il y a quelques semaines. Puis je disais, bon, on avait des activités en forêt. Il m'arrive de faire des activités en forêt, surtout dans cette saison-ci. Je vais à la chasse. Puis je dis, on va prier. On a besoin du bon climat pour la chasse. Puis là, il était comme... C'était comme trop banal comme requête à Dieu. Mais là, je dis, pourquoi? C'est mon père. Je dis, moi, à mon père, quand j'étais petit, si je voulais plus de gâteaux, je demandais plus de gâteaux. Je disais pas, bien, je vais te demander mes protéines essentielles. Non, je voulais du gâteau, je demandais du gâteau. C'est mon père. Je me souviens, il y a des années, à un moment donné, je roulais sur le chemin Chambly à Saint-Hubert. Je passe devant un garage. Il y avait un petit 4x4 Suzuki à vendre dans le garage. Je n'avais pas les sous pour ça, tout ça. Puis là, je dis au Seigneur, je dis, ce serait le fun pour aller à la chasse, tiens, un petit Suzuki 4 pattes. Ce serait cool. On voit ça comme ça au Seigneur. J'oublie complètement ça. Des mois plus tard, je n'avais même pas réalisé quand j'avais dit ça que mon père venait juste de s'acheter un petit Suzuki 4 pattes. Fait que des mois plus tard, mon père m'appelle, il dit, hey, je me débarrasse de mon petit 4x4, tu veux-tu? Et là, je me suis souvenu, j'avais juste lancé ça à Dieu, spontanément comme ça. Je passais devant, je l'avais oublié. Tu sais, c'était pas comme j'intercède tous les matins pour avoir mon petit Suzuki. Non, j'ai des choses plus importantes à apporter au Seigneur à tous les jours, mais c'est juste une prière spontanée comme ça. Mon père m'appelle, puis je dis, merci, Père. Merci, Père. J'étais juste émerveillé. Alors, pourquoi est-ce que je vous amène dans ce passage-là, dans Ésaïe 57, c'est que je pense qu'on complique beaucoup la prière et qu'on comprend mal l'esprit dans lequel Dieu veut qu'on vienne vers lui. Regardez bien ce que Dieu dit dans Ésaïe 57, les versets 14 à 16. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Il dit, je suis loin, mais je suis très près aussi, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Écoutez ceci, je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Plusieurs d'entre vous, vous négligez d'aller dans la prière parce que vous dites, « Je le sais que je suis chrétien, mais je ne suis pas digne de m'approcher de Dieu. » Puis Dieu dit ici, « Je ne vais pas contester à jamais parce que tu as péché. J'aime pas voir ceux qui m'aiment tomber en défaillance, faiblir sous mes jugements. » Dieu dit à l'eunuque que l'eunuque ne dise pas, « J'ai pas ma place dans la maison de Dieu. » Que ceux des autres nations ne disent pas, « J'ai pas ma place dans la maison de Dieu. » Mais moi, je vous dis ce matin que certains d'entre vous qui êtes chrétiens, par rapport à la prière, vous pensez que vos prières ne sont pas entendues. Puis là, vous entrez dans un combat intérieur. Vous blâmez Dieu ou vous vous blâmez vous-même? Bon, bien fâché, tu blâmes Dieu, ça dure un temps. Après ça, tu dis, OK, c'est quand même Dieu, fait que je vais être raisonnable. Donc, c'est moi le problème. Mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Continue à prier. Continue à demander. Continue à supplier. Continue à venir à Dieu simplement. Dieu sait ce qui est bon. Dieu t'aime. Doute pas de son amour et ne doute pas de ton accès auprès de Dieu. Ne doute pas de son amour et ne doute pas de ton accès auprès de Dieu. Avez-vous déjà eu des relations avec un ami qui est comme super insécure dans la relation? Chaque fois que tu vas prendre un café avec lui, c'est comme si tu sens que la relation est en train de passer un test. Il faut que tu souris assez, parce que si tu ne souris pas assez, il va dire, « Écoute, je pense que tu n'es pas bien avec moi, hein? J'ai-tu fait quelque chose? » Avez-vous déjà eu des relations comme ça? C'est comme, « Arrête! Je suis juste content d'être ici avec toi. » Plusieurs d'entre nous, c'est notre attitude dans la prière. Alors que Dieu dit, non, t'es bienvenu, t'es accueilli, viens, entre dans ma maison de prière parce que je veux te réjouir dans ma maison de prière. Je les réjouirai dans ma maison de prière, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. La prière est très, très simple. Personnellement, je vous partage comment la prière fait partie de ma vie. D'accord? Je vous donne des exemples avec ma vie. Puis j'ai tellement souvent dit à l'Église combien j'ai besoin de grandir dans ma vie de prière. Dieu merci, dans les dernières années, je vois vraiment un grand changement, mais encore tellement de place pour m'améliorer. Mais je le dis souvent à l'Église, moi le matin quand je me réveille, avant d'ouvrir les yeux, je commence à prier. Je n'ai pas de mérite, je ne sais pas, ça vient spontanément. J'ai décidé un jour que ma première pensée, je voulais l'accorder à Dieu. Fait que je ferme mon cadran s'il a sonné avant que je me réveille, puis je prends quelques minutes avant d'ouvrir les yeux, puis je vais dans la prière. Simplement. Je vais juste parler à Dieu de ce qu'il y a sur mon cœur, le remercier, présenter un peu la journée, puis dire, Seigneur, avant que les tracas viennent, puis avant que je tombe dans les grosses prières d'intercession, je veux juste te dire que je t'aime, puis je veux te servir aujourd'hui. Mes journées commencent comme ça. Ensuite de ça, je l'ai mentionné souvent aussi, depuis quelques années, j'écoute ma Bible le matin. J'ai tellement les deux yeux dans la graisse de bine, mon cerveau ne fonctionne pas. Je pars ma Bible en audio, j'écoute ça, puis spontanément, pendant que j'écoute, il y a des prières qui viennent, spontanément. Seigneur, parle-moi. Touche-moi, Seigneur, je ne veux pas être indifférent. J'ai besoin que tu touches mon cœur. Après ça, je prie, mais avant de manger, sincèrement, je prie avant de manger. Quand est-ce que je prie à part de ça? Je prie lorsque je prépare l'exposé biblique. La préparation de l'exposé biblique, du message, pour moi, c'est un temps de prière. Je travaille avec mon tableau blanc dans mon bureau. J'ai ma Bible, j'écoute mon texte, j'étudie mon texte. Puis là, j'ai deux prières qui viennent constamment. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux dire à l'Église? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux dire à l'Église? Puis je continue à prier. Puis des fois, là, je suis complètement bloqué. Pendant 45 minutes, pendant une heure, pendant une heure et demie, je tourne dans mon bureau, je m'étends sur ma table, je prie, je ne sais plus, je ne me comprends plus, je ne sais pas, ce n'est pas clair. Je n'ai pas un énoncé clair, quelque chose. J'ai compris le texte. J'ai compris ce que le texte dit, mais j'ai besoin de comprendre comment tu me parles à moi puis comment tu veux parler à l'Église de l'espoir. Je suis le pasteur de l'Église de l'espoir. Je ne suis pas le pasteur de n'importe quelle église. C'est un temps de prière pour moi. Puis à un moment donné, ça commence à s'éclairer. C'est quoi mes autres rythmes de prière? J'essaie de prier toujours quand je prends un temps avec un frère ou une soeur. Au téléphone, dans mon bureau, n'importe quand, on ne se quitte pas sans prier. Pendant des années, j'ai négligé de faire ça. Maintenant, ça devient de plus en plus spontané. Hey, tu veux-tu, on va juste prier? J'aimerais ça prier pour toi. Juste un instant. Je prie aussi spontanément avec mon épouse. À différents moments, spontanément, à part pour le travail ou le soir, on se couche. Je dis, chérie, veux-tu, je vais prier? Je prie pour elle. J'ai mes temps de prière tous les vendredis matin. Je suis engagé dans le mouvement de prière 24-7. Alors moi, de 6 à 7, tous les vendredis matin, je me lève sur le radar, je pars l'espresso, je commence à prier. Je mets un peu de louange pour partir la machine. Puis je commence à louer mon Dieu, puis je commence à prier. Ça, c'est mes rythmes de prière à moi. Je prie à tous les mois avec les anciens. Lorsqu'on ne passe pas plus de temps à parler des besoins de l'Église que de prier, mais on essaie de prier ensemble à tous les mois. Ça, ce sont mes rythmes. J'aimerais ça grandir encore en prenant plus de marches de prière. J'ai commencé ça dans la dernière année. J'ai réalisé que pour moi, prier, longtemps, ça se fait en marchant. Assis, couché, je dors, je pars, je ne suis pas là. Je vais marcher au parc Michel Chartrand. J'ai découvert ma petite méthode de prière avec l'heure qui change le monde. Puis là, je fais mon petit mouvement de prière pendant une heure. J'aimerais ça aller le faire plus régulièrement. Ça, c'est un domaine où je veux grandir. J'aimerais prier plus régulièrement avec mon épouse. Plus régulièrement, plus systématiquement. Alors, voyez-vous, ça, ce sont mes rythmes à moi de prière. Et si vous avez été attentif, il y a plein de ces éléments-là qui sont associés à la vie de l'Église où je prie avec des frères et sœurs. Ce n'est pas moi seul de mon côté. La prière, c'est quelque chose de très simple, où tu vas dans la présence de Dieu avec une conviction très claire qu'il t'a aimé en Jésus-Christ. Ce n'est pas un test, ce n'est pas un examen. Tu ne t'en vas pas t'asseoir avec ton chum ou tu es super insécure ou une relation amoureuse où chaque rencontre est un examen, à savoir, on s'aime-tu encore? Regarde, il a donné son fils pour toi, fait que de son bord, c'est réglé clair. Ça marche? Il a donné son fils pour toi. Il l'a scellé. Puis il t'a donné son esprit, fait que tu ne peux même pas te pousser. C'est réglé. Ce n'est pas un examen. J'ai juste à aller devant le Seigneur et dire, Seigneur, j'ai une requête actuellement, je ne peux pas vous la partager, mais de ce temps-ci, là, ce que je dis à Dieu, c'est, je suis fatigué de revenir toujours avec ça, Seigneur. Parce que tant que tu ne répondras pas à ça, ce domaine-là dans ma vie ne va pas vraiment te glorifier. Ça me fatigue que ce ne soit pas changé, puis je suis juste incompétent pour changer ça. Viens changer, Seigneur. Puis je suis fatigué de venir avec ça, j'ai besoin que tu fasses. Quand est-ce que tu vas faire quelque chose avec ça, Seigneur? J'essaie, mais je n'y arrive pas, j'ai besoin de toi. Je fais ça simplement comme ça. La prière est un endroit où tu viens spontanément, librement t'exprimer à Dieu. Nos prières devraient être là tout le temps. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Je vais terminer avec cette idée-ci. Priez ensemble, priez sans cesse, priez pour votre joie et pour notre joie. Dieu dit dans Ésaïe 56 au verset 7, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Paul nous dit que nos sacrifices, maintenant, c'est notre temps, c'est notre énergie, c'est ce qu'on donne à Dieu, car ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. À l'Église de l'Espoir, nos rythmes de prière, c'est la prière dans la célébration le dimanche matin. Comme on lit les Écritures, on s'applique pour lire les Écritures le dimanche matin, on a des temps où, de la chair en avant, on va prier, puis on va prier en Église. C'est des groupes de prière le matin pour hommes et pour femmes où on apprend à prier ensemble, à intercéder pour des requêtes pendant des années souvent. C'est la prière dans les groupes connexion, c'est la prière mensuelle du 24-7 le dimanche soir, c'est l'intercession des anciens tous les jours. Maintenant, je pense qu'il y a encore beaucoup de place pour qu'on apprenne à prier ensemble. L'Église est la maison de Dieu et j'aimerais voir que chaque fois qu'on se rencontre entre nous, il y a un moment qui soit consacré à la prière. Avant de se laisser, lorsque tu vois un frère, une sœur de l'Église, prenez un instant pour prier. Au début, il y a comme un petit malaise. Tu peux avoir le feeling que tu es comme en train de jouer au super spirituel. T'sais. On jasait de n'importe quoi. « Hey, j'ai fait mon changement d'huile. » Puis là, tu viens pour te laisser, puis on pourrait-tu prier? Tu as comme le feeling d'être un petit peu... C'est weird. T'sais. C'est comme, OK, ça, c'est le super spirituel. Mais faites-le une fois, deux fois, trois fois. Vous allez voir, ça fait du bien. Se laisser deux chrétiens, là, ça devrait se passer comme ça. Avec, hey, veux-tu, on va juste prier avant de se laisser. Et j'aimerais voir l'Église apprendre à faire ça. Un autre domaine où je pense qu'on a beaucoup à apprendre, on doit apprendre à faire des veillées de prière ensemble. Spontanément dans l'année. Et je vous ouvre une porte, là, ce matin. Ça ne doit pas toujours venir des anciens, ces choses-là, les amis. Ça ne doit pas toujours venir des anciens. Tu as à cœur qu'il y ait une veillée de prière, accroche un des pasteurs, puis dis-lui, écoute, dimanche soir prochain, j'aimerais inviter l'Église à venir prier. Est-ce que tu peux passer le message? Je vais être là, je veux prier. Il y a quelque chose, il y a une situation, il y a un drame. Vous allez recevoir un courriel cette semaine où vous allez être appelé à prier. Je n'irai pas là ce matin, c'est assez dramatique. Mais vous allez être appelé à prier. Mais spontanément, quelqu'un peut dire, je veux faire une veillée de prière pour ça. Et donc, j'aimerais voir l'Église commencer à avoir des veillées de prière. Où on fait juste dire, tous ceux qui veulent venir, venez prier, on va prier ensemble. Mais à tout le moins que lorsqu'on se croise les uns des autres, spontanément, on prenne le temps de prier. Et vous allez voir, il y a des choses extraordinaires qui vont se passer dans l'Église parce qu'on va venir avec plus de simplicité à Dieu. Et un des beaux moyens pour apprendre à prier, c'est d'entendre d'autres prier. J'aime le lien que Dieu fait dans ce passage-là entre la joie et la prière. Mais l'Église de l'espoir n'est pas appelée à devenir une maison d'études bibliques. Elle est appelée à devenir une maison de prière. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ce beau passage. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous enseigne la vérité, qui nous aide à voir ton cœur, ta simplicité. Combien, Seigneur, tu as compassion de ces âmes qui défaillent par nos péchés, par nos fautes, par nos manquements, Seigneur. J'aimerais te prier, s'il y a quelqu'un ici parmi nous qui ne te connaît pas intimement, personnellement encore, qui n'a pas bien saisi l'Évangile de Jésus-Christ, donne-lui, Seigneur, de faire des prières spontanées, de faire une prière spontanée, de dire, « Dieu, si tu existes, fais-toi connaître à moi. » Fais-toi connaître à moi, Seigneur. Seigneur, je te prie pour Charles et Sabrina qui vont se faire baptiser dans quelques instants, Seigneur. Viens remplir leur cœur de joie dans ce moment de baptême. Viens remplir leur cœur de foi. Viens les affermir dans leur foi. Fais d'eux un homme et une femme de prière. Spontanément, sans posséder toutes les connaissances sur Dieu, sans voir toute la théologie bien en ordre, simplement venir dans la prière, Seigneur. Et Seigneur, reçois nos louanges ce matin. Comme des prières d'adoration, on vient élever et célébrer ton nom, Seigneur. Merci de nous accueillir, quel que soit notre état, en Jésus-Christ. Amen.